Chapitre 10. Quelques versets de ce chapitre nous indiqueront la position de Daniel quand cette communication lui fut adressée et les circonstances qui en furent l'occasion. La position de Daniel et l'état de son âme offrent ici, au commencement, quelques traits instructifs. Dieu en prend aussi connaissance, car l'homme vêtu de lin lui dit « Ne crains pas, Daniel ». Car dès le premier jour où tu as appliqué ton cœur à comprendre et à t'humilier devant ton Dieu, tes paroles ont été entendues. Verset 12. Telle est la position de Daniel. Il est affligé en la présence de son Dieu. La date de la troisième année de Cyrus, voir les versets 1 à 3, est importante ici, parce que les Juifs, ou du moins un résidu d'entre eux, étaient de retour dans leur pays, dès la première année du règne de ce prince. Ce n'était donc pas la captivité de Babylone qui préoccupait le cœur de Daniel en ce moment. Il était resté à Babylone, après le départ d'un très grand nombre de Juifs pour le pays de Canaan. Mais le peuple n'était nullement dans l'état que l'esprit prophétique de Daniel aurait approuvé pour l'accomplissement des bénédictions. La conséquence en est que l'esprit prophétique de Christ dans Daniel est toujours préoccupé de l'état de ce peuple, et ne peut nullement s'en contenter, quand même une certaine bénédiction reposait sur lui. Cyrus avait beaucoup fait, on peut le voir, soit en 2 Chroniques 36, versets 22 et 23, soit en Esdras 1, versets 1 à 4. Le décret pour rebâtir le temple était déjà donné par Cyrus la première année de son règne. Mais l'Esprit de Dieu avait fait penser Daniel à toute la période du temps des gentils, et il comprenait parfaitement bien, verset 1, malgré une certaine délivrance, malgré quelque peu de relâche par la montée de Dieu et quelques rafraîchissements d'en haut, que rien des promesses de Dieu n'était vraiment accompli. Il était impossible que l'esprit prophétique de Christ, qui était là, dans la personne de Daniel, se tînt tranquille tout en attendant l'accomplissement des desseins de l'amour de Dieu envers son peuple, en sorte que Daniel continuait, comme si la captivité n'eût pas encore été finie, à affliger son âme devant Dieu. Il y eut quelque chose qui se rapportait à cet état d'âme chez d'autres personnes qui revinrent à Jérusalem quand la maison de l'Éternel fut rebâtie. Esdras 3. Les anciens du peuple qui avaient vu le premier temple pleuraient, en même temps que les jeunes qui ne l'avaient pas connu poussaient des cris de joie. Cette tristesse a souvent lieu en des circonstances semblables chez ceux qui ont saisi la pensée de Dieu, qui ont compris ce qu'il avait établi au commencement ou ont l'intelligence de ce qu'il établira plus tard. Ils pleurent au milieu de bénédictions qui remplissent de joie ceux qui ne pensent qu'aux circonstances du moment. C'était bien là le cas de Daniel. Impossible qu'il n'y eût pas de pleurs, malgré un certain rafraîchissement. Pour ceux du dehors, les cris de joie prévalaient, car il est dit que le bruit s'entendait au loin, verset 13. Mais parmi le peuple, on ne pouvait distinguer les cris de joie d'avec les pleurs. Mais à Jérusalem, ainsi qu'à Babylone, celui qui avait un sentiment quelque peu profond sur ce que l'état du peuple de Dieu devait être, ne manquait pas de reconnaître le misérable état de ce peuple au milieu des cris de joie. Voici, nous sommes aujourd'hui serviteurs, et quant au pays que tu donnas à nos pères, il rapporte beaucoup au roi que tu as établi sur nous à cause de nos péchés. Néhémie 9, versets 36 et 37. Quels étaient ces rois auxquels Néhémie fait allusion? Les rois de Perse, qui étaient tout à fait favorables au peuple juif. Il est vrai que leur domination n'était pas sans angoisse. Un moment, les conseils de Dieu prévalaient, un autre, les conseils de Satan, pour empêcher le peuple de rebâtir le temple. Mais en général, les rois de Perse étaient favorables aux juifs. Seulement, aussi longtemps que les gentils étaient les dominateurs du peuple de Dieu, il était impossible que l'Esprit, dans le prophète, pût reconnaître que les pensées de Dieu à l'égard de son peuple fussent accomplies. Ils pouvaient bénir Dieu de tout le bien qui était là, mais lors même que le décret avait été émis, les anciens pleuraient. Et bien plus encore, Néhémie disait « Nous sommes esclaves dans le pays que tu as donné à nos pères, et Daniel, pour sa part, continuait à affliger son âme devant l'Éternel. C'était là que l'Esprit de Dieu se manifestait. On trouve toutefois dans la parole de Dieu de très petites choses en apparence mais qui sont pour nous des indices de la pensée du Saint-Esprit. Par exemple, ici, au verset 1, la date de la troisième année du règne de Cyrus nous montre que la réintégration des Juifs n'empêchait pas la position d'humiliation chez Daniel. Il s'affligeait devant Dieu pendant 3 semaines entières pour son peuple. C'était à lui seul, par conséquent, que Dieu révélait ses conseils, ses intentions pour l'avenir d'Israël. Évidemment, Dieu séparait Daniel des choses qui avaient lieu pour le rétablissement momentané de son peuple, afin de porter son cœur en avant sur ce qui devait arriver à la fin de l'indignation, laquelle n'était nullement épuisée. Nous trouvons encore dans ce passage une autre instruction que je ne veux pas omettre. Elle a trait aux opérations de Dieu par le moyen de ses anges et au fait qu'il y avait des démons qui cherchaient à empêcher le ministère de la providence de Dieu à l'égard de son peuple. « Ne crains pas, dit l'ange à Daniel, car dès le premier jour où tu as appliqué ton cœur à comprendre et à t'humilier devant ton Dieu, tes paroles ont été entendues, et moi, je suis venu à cause de tes paroles. » Toutefois, quoique les paroles de Daniel eussent été exaucées dès le premier jour, la réponse de Dieu par l'ange n'arriva que 3 semaines après. Alors, cet ange raconta à Daniel comment cela avait eu lieu et la lutte qu'il avait eu à soutenir à la cour de Perse en vertu de l'opposition du chef de ce royaume contre les Juifs et qu'il n'y avait que Michaël, l'un des principaux chefs, qui fut venu pour l'aider. Daniel n'en savait rien. C'est de cette manière que Dieu exerce l'obéissance de ses anges et met en même temps la foi de ses serviteurs à l'épreuve. Daniel, préoccupé de son peuple et de la gloire de Dieu au milieu de son peuple, ne peut se contenter de quoi que ce soit jusqu'à ce que les promesses de Dieu soient accomplies. C'est pourquoi il s'humilie et s'identifie avec la misère et l'affliction de son peuple, selon l'esprit de celui dont il a été dit, « Dans toute leur détresse, il a été en détresse. » Alors Dieu qui a fait la grâce à son serviteur de faire cela, agit en même temps d'en haut pour lui révéler tout son conseil, mettant d'autre part la patience de Daniel à l'épreuve pendant que l'ange lutte à la cour de Perse. Je ne doute pas que cela ne nous arrive aussi, c'est-à-dire que Dieu ne mette notre foi à l'épreuve. Ce n'est pas qu'il ne nous ait entendus et exaucés. Il sait très bien d'avance quelle sera la fin. Mais il veut voir si la foi va jusqu'au bout de la difficulté, et alors il répond. Cette épreuve de la foi, bien plus précieuse que celle de l'or qui périt, est trouvée tournée à louange dans la révélation de Jésus-Christ. D'un autre côté, nous voyons le service même des anges dans le gouvernement de Dieu et l'épreuve à laquelle ils sont exposés. Et je suis venu pour te faire comprendre ce qui arrivera à ton peuple à la fin des jours. Verset 14. Voilà la réponse. Mais cette réponse à l'affliction de Daniel n'était pas accomplie pour le moment. Sans doute, Daniel jouissait du retour du résidu de son peuple, mais malgré cela, il ne pouvait être satisfait que toutes les promesses ne fussent accomplies. Il y a 2 moyens de juger des pensées de Dieu quant à son peuple. Le premier, c'est de considérer l'état dans lequel Dieu l'avait placé au commencement et comment il l'avait formé, façonné depuis longtemps, comme le dit Ésaïe au chapitre 22. Le second est de considérer en quel état sera le peuple de Dieu à la fin, quand Dieu l'aura rétabli selon ses conseils, c'est-à-dire son état originel ou son état final. Ainsi, lorsque Daniel prenait connaissance de l'état de son peuple, il pouvait s'y trouver bien des bénédictions passagères de Dieu. Il pouvait aussi y avoir des châtiments, mais les pensées du prophète, de l'homme spirituel, étaient tournées ou vers ce que Dieu avait fait au commencement, ou vers ce qu'il fera à la fin. On peut dire aussi cela de l'homme. Si je pense à mon état actuel, je puis me souvenir de l'état d'Adam sans péché, où je puis regarder à l'état de résurrection dans lequel je serai plus tard et réaliser en esprit l'un ou l'autre. Comparer mon état actuel à l'état d'innocence d'Adam ou à l'état de gloire en Christ. Eh bien, il en est de même de l'Église et du peuple juif. Si j'examine la condition du peuple juif au commencement ou à la fin, dans la gloire du Messie, l'un ou l'autre font sentir l'état d'imperfection où il se trouvait lors de son rétablissement après la captivité de Babylone. Si je considère l'Église au commencement, je vois l'effet de la puissance de l'Esprit de Dieu, je puis aussi, en examinant les promesses de Dieu, considérer l'état de l'Église quand elle sera dans la gloire avec Christ, et alors je puis juger de son état actuel. Daniel a fait ces deux choses. Dans la confession du chapitre 9, il avait considéré beaucoup plus l'état passé du peuple, et ici, c'est beaucoup plus l'état à venir, l'état de bénédiction qui doit arriver à la suite de ce qui est dit spécialement au chapitre 12. L'introduction de Michaël, un des premiers chefs qui tient ferme pour le peuple de Dieu, nous conduit nécessairement aux événements de la fin, selon les conseils dont il assure l'accomplissement. Les circonstances dans lesquelles les Juifs se trouvaient à ce moment-là donnent le fil conducteur jusqu'au temps où les conseils de Dieu seront accomplis. Je passerai rapidement sur la première partie, c'est-à-dire sur la partie historique. Les empires persans et grecs forment ici le cadre du récit historique. Mais le but de la prophétie, comme vous le voyez au verset 14, c'est ce qui doit arriver au peuple de Daniel à la fin des jours. Au verset 20, l'ange dit « Sais-tu pourquoi je suis venu vers toi ? Et maintenant, je m'en retournerai pour combattre contre le chef de la Perse. Et quand je sortirai, voici le chef de Javan viendra. » Tels sont les deux empires dont il s'agit ici en rapport avec le peuple de Dieu, savoir la Perse et la Grèce, qui était la troisième monarchie. Ensuite, nous avons la première partie de l'histoire de cette monarchie grecque au commencement du chapitre 11, versets 1 à 4.